Et c'est Sophie que j'accueille maintenant avec grand plaisir. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Bienvenue à vous.
Alors, Maxime me dit qu'on se connaît. Remettez-moi ça en mémoire, s'il vous plaît.
Alors, je vous remets en mémoire. Je vous ai appelé au sujet de mon fils Jean-Baptiste, avec qui les relations étaient très difficiles. Mais chaque fois que j'appelais, il venait. Et c'est ça que vous m'avez dit, c'est d'une ambiguïté totale. Et en fait, Jean-Baptiste va beaucoup mieux.
Bon.
Il va beaucoup mieux. Je vous avais parlé un soir de détresse où j'avais plus rien à manger. J'avais pas mangé pendant 48 heures. Et vous m'aviez dit, mais il y a des associations, Sophie, il faut y aller. Et j'étais désespérée ce soir-là. Voilà. Pour vous remettre dans l'ambiance du moment.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jean-Baptiste aille mieux ?
Je vais bien.
Ah oui, bien sûr. Forcément,
je vais bien.
Par effet miroir, il va mieux aussi.
Et par effet miroir, il va mieux. Il n'y a qu'un seul ombre tableau, c'est que on a appris que mon père était atteint de la maladie d'Alzheimer.
C'est un monsieur qui a quel âge ?
C'est un monsieur qui a 85 ans.
Oui.
Et qui commence à être complètement à côté de ses pompes, qui fait beaucoup de bêtises, qui perd énormément les choses, qui commence à vouloir partir sans dire où il va, qui commence à faire des caprices. Qui ne comprend rien à la télévision. Mais je suis partie juste avant le confinement, j'ai eu l'impression de l'abandonner.
Vous êtes partie où ça ?
Chez moi, je suis retournée à mon domicile.
Et lui, il est tout seul chez lui ?
Alors que j'étais chez mes parents.
Ah oui, d'accord. Et lui, il est avec votre maman ?
Il est avec ma maman et il est avec mon fils. C'est ça qui me chiffonne. C'est que Jean-Baptiste, pour faire des économies, a choisi de vivre quelques temps chez mes parents pour mettre de l'argent de côté et s'acheter un appartement. Donc Jean-Baptiste est aux premières loges.
Mais pourquoi ça vous ennuie ?
J'ai peur que ça influence son moral difficilement.
Ah, c'est sûr que c'est difficile, mais ça fait aussi partie des choses de la vie. C'est son grand-père.
C'est son grand-père, oui. Je sais bien que c'est son grand-père. Et Jean-Baptiste a déjà 30 ans et est en âge de le supporter.
Est-ce qu'il vous en parle ? Est-ce que ça lui pose un souci à lui ? Ou c'est plus vous qui
il
vous inquiétez ?
Il m'en parle jamais. C'est un taiseux qui ne parle jamais. Il me dit non, ça va, je t'assure que ça va, ça se passe bien.
Oui,
mais
alors...
jamais il donne son sentiment, il dit bah, qu'est-ce que tu veux, ça devait arriver, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Voilà ce qu'il me dit, c'est très peu d'informations.
Alors attention, parce que peut-être que vous reportez vos émotions sur lui quand vous me dites que vous vous sentez coupable d'avoir laissé votre père comme ça. Peut-être que finalement, pour votre fils, ça se passe pas si mal que ça.
Ouais, peut-être.
Vous m'auriez dit...
Mais j'ai jamais dit à Jean-Baptiste que je me sentais coupable. Hein.
Non, j'ai bien compris. Mais peut-être que comme vous voyez les choses un petit peu à travers ces émotions-là, vous avez plus peur pour lui que lui-même, finalement.
Probablement, j'ai surtout peur pour mon père. Je vois qu'il fait tellement de conneries que je tremble en permanence de le voir faire des bêtises. D'abord, j'ai peur de le voir tomber sur ses jambes. Il prépare du thé, j'ai peur qu'il s'y bouillante. Il regarde la télévision, j'ai peur qu'il me dise je comprends strictement rien du tout. Il ne sait plus allumer la télévision. Il me demande tout.
Mais vous me dites que vous ne vivez pas avec lui.
Non, je ne vis plus. Je suis restée chez mes parents 3 semaines. Et puis j'ai fui comme une voleuse. Je suis partie et 2 jours après, c'était le confinement.
D'accord. Mais j'imagine qu'il est pris en charge, votre papa. Il y a un médecin qui le suit, un neurologue.
Alors, il a vu un neurologue après avoir fait un IRM qui lui a dit qu'il n'y avait rien à faire. Qu'il n'y avait rien à faire, qu'il fallait qu'il fasse des exercices de mémoire.
Il n'y a rien à faire, mais quand la situation se dégrade, à bout d'un moment, il y a une prise en charge.
Qu'est-ce que vous appelez une prise en charge?
Il devra malheureusement être en EHPAD. En institution, parce qu'il va devenir un danger pour lui et pour les autres.
Il commence déjà à devenir un danger pour lui-même.
C'est pour ça, je pense même pour votre maman, ça serait beaucoup plus sécurisant qu'il soit encadré.
On n'en est pas là parce qu'elle va le garder jusqu'au dernier moment, telle que je la connais.
Oui.
C'est une femme qui a le sens du sacrifice et du devoir. Jusqu'à s'en pour lâcher les babines, elle est folle de ça.
Jusqu'à quoi, pardon, j'ai pas compris.
Elle est folle de ça, folle de le devoir, le sacrifice, soit elle va le garder jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'elle n'en puisse plus.
Et votre maman, je vous ai pas demandé quel âge elle a.
Elle a 80 ans, mais elle est en pleine forme.
Bon, heureusement.
Oui. Elle tient tout ce petit monde à bout de bras. Et ce qui ne m'empêche pas de ne pas l'aimer. J'arrive pas à l'aimer. J'arrive pas à l'aimer. Nous sommes trop antinomiques. Elle m'a fait trop de mal, beaucoup trop de mal. Et je vois même dans la façon qu'elle a de s'occuper de mon père, elle perd patience, elle l'engueule, elle a pas encore, semblerait, elle accepte pas la maladie. Elle accepte pas la maladie.
Mais elle vous le dit ou c'est quelque chose que vous pensez, vous?
Ah ben c'est quelque chose que je constate.
Ah.
Je pense que c'est un fait. Déjà, moi, j'étais bipolaire, elle n'a jamais accepté. Elle me l'a dit un jour, j'ai jamais accepté d'avoir une enfant malade.
Ouais.
Ça, elle me l'a dit, elle me l'a balancé dans la figure. De même qu'elle supporte pas de voir mon père malade. C'était un grand homme. Un grand ingénieur, et il y a 10 ans, il a fait une pancréatite aiguë gravissime. Il a failli mourir, et j'aurais préféré, avec du recul, qu'il y passe, plutôt que de vivre tout ce qu'il va vivre.
C'est-à-dire que là, maintenant, qu'elle l'accepte ou pas, votre mère, elle va bien devoir le supporter.
Oui, elle va bien devoir le supporter, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Déjà, il ne sait plus signer un carnet de chèques. Il va être mis sous tutelle là, dans les jours qui viennent. Ma mère a la signature, donc elle signe tous les chèques. C'est elle qui s'occupe de tout. Il est incapable de rien faire.
Oui.
Il est incapable de rien faire.
Et vous avez l'impression que ça a évolué très très vite, là, d'un seul coup, cet Alzheimer?
Ça a été vertigineux.
Ouais.
Nous avons écouté, il y a eu un facteur, je ne sais pas si dans la maladie d'Alzheimer, il y a des facteurs déclenchants. Ça fait déjà 2-3 ans qu'il cafouillait dans la choucroute. On a mis ça sur le compte d'une très mauvaise audition.
Ah oui.
Le fait qu'il n'entende pas, qu'il ne comprenne pas, qu'il soit toujours... qu'ils aient des réponses inappropriées. On a mis ça sur compte de la surdité. Et puis, il a commencé d'aller très mal cet été. Et puis, ma grand-mère, qui a 107 ans, est morte. Et depuis, c'est la débandade.
C'était sa mère à lui?
C'était sa mère à lui.
Oui. 107 ans, on dit.
107 ans, oui. Ça a été une délivrance pour tout le monde, madame. Ça a été une délivrance pour tout le monde, Sabine. Elle a agonisé pendant 2 mois.
Ah, c'est moche, ça.
Ça a été affreux, ça a été affreux. Elle hurlait du matin jusqu'au soir.
Pourquoi ils l'ont pas apaisé?
Bien, finalement, une nuit, pendant 2 soirs de suite, l'équipe de soins palliatifs est venue et a fait ce qu'il fallait. Mais on a laissé agoniser pendant 2 mois.
Oh,
ça a été horrible.
Vous pensez que ça a pu être un facteur déclenchant pour votre père, ça?
J'ai l'impression que tant qu'elle était là, il sentait encore le chef de famille. Et puis quand elle est partie, il s'est senti le droit d'être malade, je crois. J'ai cette impression.
Oh, c'est tout à fait possible. Le moral joue énormément sur toutes les maladies.
Je me pose la question. Très franchement, je me pose la question. Il n'a pas montré de chagrin, mais particulier, il ne s'est pas mis à pleurer. Il n'a pas manifesté de ce genre d'émotion-là. Parce qu'il était comme tout le monde, il était soulagé. Mais il était complètement à côté de la plaque. Il reconnaissait même plus les amis qui venaient le voir. Il y a des gens qui sont déplacés pour venir le voir. Ils se souvenaient plus de leur nom. J'étais très gênée, je n'avais plus où mettre. Et je dis à papa, mais si, tu sais, c'est Raymond. Ah oui, mais il vient d'où? Mais tu sais très bien, il vient de Brive. Ah oui, 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 oui. Et lui, c'est qui? Il ne reconnaissait plus ses copains. Il ne reconnaissait plus ses copains.
Et est-ce que par moment, il a des périodes où il est lucide, où il est conscient de ce qui lui arrive?
Oui. Alors, on se téléphone tous les soirs.
Ouais.
On maintient le lien. Je l'appelle le soir vers 6 heures. Et il me dit « Bonjour, ma Sophie. Comment vas-tu? Que deviens-tu? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ?»
Donc là, il est vraiment là, hein.
Oui, là, il est vraiment là. Ouais. Il est vraiment là. Et ça dure 5 minutes, hein, c'est pas beaucoup. Mais c'est 5 minutes...
C'est précieux.
C'est précieux et ça me réconforte. Et puis, il est toujours très heureux qu'on l'appelle.
Ouais, ça, c'est une bonne chose.
Toujours extrêmement heureux qu'on l'appelle. Et j'aimerais bien que mes frères et sœurs, nous sommes 5 dans la fratrie, en fassent un peu plus quand même.
Ouais, j'entends souvent ça, que c'est celles qui a été mal aimée qui en fait le plus.
Ben écoutez, moi j'étais l'enfant terrible, bipolaire, non soigné, pas diagnostiqué. J'en ai fait des vertes et des pas mûres, croyez-moi. J'en ai fait de toutes les couleurs, j'ai vu comme un trou, fumé comme un pompier. J'ai fait toutes les conneries de la terre. J'étais l'enfant terrible et finalement, ben, c'est moi qui suis le plus proche de mes parents maintenant.
Et vous voyez, comme quoi?
Oui, comme quoi, ça veut strictement rien dire du tout.
Est-ce que vous, entre frères et sœurs, vous parlez de cette maladie d'Alzheimer?
Alors, ma mère ne veut pas qu'on prononce ce nom devant mon père.
Ah oui, mais vous pouvez en parler sans être devant lui.
Est-ce qu'on en parle? Non, elle ne veut pas prononcer le mot. Elle ne veut pas prononcer le mot. Elle dit l'état de santé de mon... Elle dit publiquement l'état de santé de ton père.
C'est curieux, ça, comme si ça allait changer quelque chose à la maladie de ne pas prononcer son
nom. Ah, mais c'est une dame qui adore le nom dit.
Ah, ben oui.
C'est une dame qui adore le non-dit et elle vient d'une famille de culture judéo-chrétienne où ça ne se fait pas de parler de soi. Ça ne se fait pas de parler.
Mais vous, entre vos frères et vos sœurs, est-ce que vous en parlez de ça? Est-ce que vous vous posez des
Bien
questions
sûr,
sur l'évolution sur
la... Bien oui. sûr, nous en parlons parce que tout le monde voit qu'il perd pied.
Ben oui.
Et bien sûr qu'on en parle. Mais ils sont très, très loin de... Je suis la seule à aller le voir et à être proche de lui et à aller aussi longtemps et aussi souvent. Ils mènent des vies tranquilles, loin. Ils vivent les choses de très loin. vivent les choses de très loin.
Est-ce que ça vous fait peur, là, ce qui va se passer dans les mois qui viennent pour lui?
J'ai terriblement peur.
Oui.
Je tremble. J'ai très peur de ce qui va se passer. J'ai très peur de voir sa déchéance, que je vois déjà.
Oui.
Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et moi et l'inconnu, ça fait deux. Je sais qu'il va devoir être placé un jour ou l'autre. J'espère qu'il partira avant. J'espère qu'il partira avant. Je ne sais pas comment, je ne sais pas de quoi. Mais je n'ai pas envie que... Je n'ai pas envie de voir sa déchéance.
Oui, bien sûr.
Ça me fait terriblement peur.
Alors justement, j'étais en train de me dire, pour ne pas être trop dans l'inconnu, vous pourriez contacter l'association France Alzheimer.
Oui, ben, faudrait qu'ils répondent au téléphone, ils répondent,
Bah oui, en ce moment, c'est peut-être compliqué, effectivement.
Ils ne répondent pas au téléphone. J'ai leur numéro de téléphone. Je tombe sur un répondeur qui me dit qu'il y a trop de messages qu'ils ne peuvent pas prendre.
Oui, je suppose qu'avec le confinement, ils ne sont pas sur place non plus, donc ça doit compliquer les choses aussi pour eux.
Ouais. Ça doit compliquer, ouais, voilà. Alors, j'aimerais bien les contacter. D'ailleurs, je vais reprendre leur numéro de téléphone, si vous voulez bien
me donner. Je ne l'ai pas sous les yeux, là, non. Je vous avoue que je le cherchais en vous parlant, je ne le retrouve pas dans mes archives, là, pour l'instant. J'ai demandé à Maxime de me trouver ça. Maxime, tu peux me trouver le téléphone de France Alzheimer, s'il te plaît? Merci. Je vous donne ça dans une petite minute. Maxime le cherche pour
d'accord,
vous.
D'accord, oui.
Parce que justement, je pense que pour l'entourage, c'est une des maladies les plus difficiles à aborder. Et vous avez raison quand vous dites...
Parce que tout le monde souffre dans cette maladie.
Exactement, oui. Ne pas savoir l'inconnu fait très très peur. Et des gens...
Ça me fiche la trouille parce que je vois se dégrader de jour en jour et puis c'est de jour en jour. Hein.
Oui, ça peut aller très vite malheureusement, oui.
Ça va très vite. Ça va depuis le mois d'août. Ça va fissa.
Ouais.
Ça va très, 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 très vite. Alors, de temps en temps, ma mère fait preuve de pédagogie. Des fois, elle ne fait pas preuve de pédagogie. Elle crie.
Avec vous ou avec lui?
Avec lui.
Ah oui.
C'est une femme qui... Elle crie. C'est terrible. J'ai jamais vu une femme crier comme ça. Je n'ai jamais levé le ton de ma voix. Jamais.
Ah, souvent, quand on a été élevé par une maman qui crie, on ne crie plus du tout derrière. On est vacciné à vie.
On est vacciné à vie. Je ne lèverai jamais le ton de ma voix.
Oui.
Voilà. Mais c'est surtout, je suis tétanisée par mon père, tétanisée par le nombre de conneries qu'il fait à la minute. Il perd tout. Ses lunettes, ses clés, son portefeuille, son carnet de chèques, sa carte bleue. Il oublie ses codes.
Oui.
On peut rien lui laisser.
Et là où ça devient très dangereux, c'est quand ces personnes-là se mettent à oublier d'éteindre le feu. Le gaz, l'électricité, la cuisinière...
Alors, heureusement, il n'a jamais fait de cuisine de sa vie.
Ou qu'il laisse les choses ouvertes, la porte de la maison. Enfin, oui, c'est des choses comme ça, quoi, qui deviennent vraiment dangereuses.
Ouais, voilà. Et le jour, il cherchait partout ses clés, elles étaient sur la porte de la maison.
Et oui.
Voilà. Et puis, il avait oublié ses clés aussi dans la boîte aux lettres.
Et il peut laisser l'eau couler. Enfin, oui, des choses comme ça qui, petit à petit, deviennent vraiment très, très handicapantes, quoi.
Ouais. Ça, il arrive à être autonome, il fait sa toilette tout seul. C'est déjà pas mal.
Oui. Alors, Maxime a retrouvé le téléphone de France Alzheimer. Vous vérifierez déjà si vous avez le bon. Je pense que oui, puisque vous tombez sur le répondeur. Mais je vous le redonne quand même. Vous avez de quoi noter, Sophie?
Oui, j'ai de quoi noter, Sabine.
Alors, 01.
Oui.
42 97.
Oui.
52 41.
D'accord.
Parce que c'est toujours pareil, ce sont des gens qui ont l'habitude et qui peuvent aussi vous orienter vers peut-être des groupes de parole ou d'écoute, ou donner des conseils pratiques.
Des groupes de parole et d'écoute me feraient plus grand bien.
Oui, je pense. Effectivement, des gens qui sont confrontés à la même situation, quoi.
Oui. Voilà, c'est ça.
Oui.
C'est ça. Et non, c'est surtout ce qui fait très peur, c'était un homme qui était très sécurisant, et c'est de voir que maintenant on est obligé d'avoir peur pour lui. C'est un inversement total des rôles, et moi je materne beaucoup.
Bah, c'est-à-dire que là, il y a déjà un travail de deuil à faire, c'est-à-dire que vous allez devoir faire le deuil du père qu'il était, de l'homme qu'il était. Il est toujours en vie, mais il n'est plus cet homme-là et il ne sera plus jamais cet homme-là.
Il ne sera plus jamais cet homme-là.
Et c'est vraiment une étape à franchir, ça.
Je l'ai compris, je l'ai déjà compris.
Ouais.
Et je crois que je l'accepte.
Bon.
Je crois que je l'accepte.
C'est le seul moyen d'avancer, hein, c'est de franchir ces étapes-là, d'acceptation aussi dure soit-elle. Parce que ça reste quand même, une fois qu'on a passé ça, on se libère un petit peu pour continuer à avancer. On perd plus son énergie, à essayer de retrouver quelque chose qui ne reviendra plus.
Non. Ça, j'ai bien compris qu'il ne reviendra plus jamais en arrière.
Et donc, quand on a accepté ça, alors on dirige son énergie vers qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai encore, ce qui me reste.
Ben, le problème, c'est que, bon, heureusement, il dort 18 heures par jour.
Ah oui, dis donc, c'est beaucoup, ça.
Oui, c'est beaucoup. Il dort énormément. Il est terriblement fatigué et fatigable. Et il dort 18 heures, 15 à 18 heures par jour. Et ça nous soulage de beaucoup de choses parce que pendant ce temps-là, au moins, on peut se reposer, nous.
Puis au moins, il est en sécurité quand il dort.
Et il est en sécurité.
Oui.
Voilà.
Est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils ne vous reconnaissent pas, ne serait-ce qu'au téléphone?
Alors, c'est arrivé une fois, à ma mère, elle a dit, mais c'est pas Sophie, Sophie est beaucoup plus grosse que je. J'ai perdu 70 kilos.
Ah oui, donc il a raison en même temps.
Oui, mais ça fait longtemps maintenant. Il a dit à ma mère, mais...
Il est resté sur l'ancienne image.
Sur l'ancienne image, elle a dit, mais c'est pas Sophie, c'est pas elle.
Oui.
Maman, j'ai dit, mais si, c'est Sophie, écoute. Je la reconnais bien. Ah oui, mais elle est en pleine forme.
Et oui.
Il ne m'avait pas reconnue.
Il a si, il vous a reconnue.
Il était persuadé que mon fils était mon frère.
Et il a superposé le passé et le présent, quoi.
Oui, il a supposé que Jean-Baptiste était mon frère.
Oui, c'est ça, il est resté à l'époque. Il est resté coincé dans cette époque-là.
Il est resté coincé dans une époque. Oui. Et puis, de me voir toute mince, il n'a pas d'habitude. Surtout que je suis 52 kilos maintenant.
Ah oui, dis donc, vous n'êtes pas épaisse.
Non, je ne suis pas épaisse. Je fais du 36, du hyper small, voire même du 16 ans. J'ai essayé un pantalon de jogging. Et je suis allée dans une boutique où ils vendaient des joggings. Ils vendaient des joggings. Ils n'avaient pas le droit de le faire, mais ils ont quand même ouvert la boutique. Et j'ai réussi à trouver un jogging du 16 ans.
Ben oui, avec ce poids-là, ça ne m'étonne pas. Et vous mesurez combien?
Je fais 1m57.
Ah oui, un tout petit bout de bonne femme, alors.
Un petit bout de bonne femme, oui, oui, oui. Oui.
Mais vous êtes bien dans votre peau, ça vous convient ce poids-là?
Oui, ce poids-là me convient très bien, parce que j'ai toujours été habituée à être très mince, et j'ai pris du dépacote dans ma vie qui m'a fait grossir de façon spectaculaire.
Ah. Ouais. C'était le traitement pour la bipolarité?
Pour la bipolarité.
Oui, bien sûr.
Et la dépacote m'a fait prendre des kilos. Et j'étais avec un monsieur qui m'achetait. Et pour m'acheter, il m'a amené au restaurant, ce qui fait que j'ai grossi.
Bon, là, vous avez repris le contrôle de ce côté-là.
Ah, ça, j'ai repris un contrôle complet. Mais j'ai bien le contrôle de toute ma vie. Et j'irais même jusqu'à dire que j'ai le contrôle de mon père, sauf que j'ai peur. J'ai peur pour lui et j'ai peur de ce qui va arriver.
Oui, bien sûr.
Et puis j'en ai pas envie. J'ai pas envie.
Bien sûr, personne n'a envie de ça pour ses proches.
Oui, j'ai pas pas envie de ce qui va.
J'espère vraiment que la génération précédente, la génération qui nous succède, suivante, ils trouveront quelque chose pour lutter contre ça.
Ah oui, oui, vraiment.
Alzheimer,
vraiment.
Parkinson, tout ça, qu'on en finisse avec ces saloperies.
Qu'on en finisse avec ces saloperies, parce que j'ai une amie qui a la maladie de Parkinson. C'est quelque chose, elle vit pas si mal que ça, mais les tremblements, c'est l'horreur, elle flanque tout par terre. Ouais. Elle flanque tout par terre.
Ben, je sais que dans les deux domaines, la science fait beaucoup de progrès, mais pour l'instant, pas encore assez, quoi.
Oui, puis maintenant, on est bloqué sur le Covid, on ne fait plus aucune recherche pour rien dire.
Ah bah pour l'instant, on est un peu dans l'urgence, ça c'est vrai.
On ne fait plus d'efforts pour les autres pathologies. C'est normal, hein, parce que...
Si on meurt tous du Covid, il n'y aura plus grand-chose à chercher sur le Parkinson et Alzheimer derrière.
Oui.
Je rigole, c'est une question de priorité pour l'instant, c'est normal.
La priorité, c'est quand même le Covid. Parce que
Bien sûr. Je
ne supporte plus le Covid.
Ouais, je crois que vous n'êtes pas la seule.
Quand on en parle à la télévision, je change de chaîne.
Ouais. En tout cas, pour en revenir à votre papa, je pense que c'est une très bonne idée d'appeler, de continuer à appeler France Alzheimer jusqu'à ce qu'il décroche, qu'il vous réponde.
Oui.
Et de trouver vraiment... Demandez même peut-être au neurologue s'il ne connaît pas des groupes de parole. Je pense que ça vous ferait du bien de partager avec des gens qui sont passés par là et qui pourraient vous éclairer un petit peu pour qu'il n'y ait pas trop d'inconnus.
C'est ce que je recherche, c'est des groupes de parole surtout.
D'accord. Bah, si jamais on a des gens qui ont des contacts, on vous les transmettra si vous le voulez bien.
Eh bien, écoutez, je serai donner mon numéro de téléphone et je serai ravie d'avoir des témoignages.
Bah, je vous promets qu'on le fait, Sophie. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter ça.
Merci. Merci Sabine.
Et je me permets de vous embrasser très fort.
Et moi je vous embrasse très 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 fort Sabine.
Bien reçu, merci Sophie, au revoir.
Au revoir.